Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées dans un jour de nuages et de sombres nuées. Voilà ce que nous entendions dans la première lecture, et cet oracle du prophète Ézéchiel a dû faire du bien au peuple juif exilé à Babylone au VIe siècle avant notre ère. Ils avaient perdu leur terre, leur roi, ils n'avaient plus accès à leur temple pour prier devant la face du Seigneur. Eh bien, nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons éprouver un sentiment d'exil. La crise sanitaire nous donne l'impression d'avoir été arrachés à notre terre, à notre vie d'avant. C'est un exil matériel au niveau des contacts, des relations que nous avions. Nous ne pouvons plus nous rencontrer librement, nous serrer la main, nous prendre dans les bras ou nous embrasser. Nous devons nous tenir à distance, nos déplacements sont limités. C'est un exil spirituel aussi. Nous ne pouvons plus nous rassembler pour prier ensemble à l'Église, en particulier pour célébrer l'Eucharistie. Notre prière en est rendue plus difficile, plus aride peut-être, au point qu'il nous semble que le Seigneur est loin, qu'il n'est plus là. Le temple de Jérusalem était le lieu où le Seigneur avait promis d'être proche. La suspension des messes nous donne l'impression que notre temple nous a été arraché à nous aussi. Il en résulte souvent une lassitude. Je n'en peux plus de ce temps. J'avance encore, mais je n'en peux plus. Ce n'est pas une vie. C'est parfois même une sorte de dégoût pour la vie spirituelle. Je n'ai plus de courage, ça m'ennuie. Dieu semble tellement loin. Il y a parfois des signes de colère que nous pouvons relever dans notre cœur. « Mais tu n'y fais rien, Seigneur. Tu ne vois pas notre situation. Cela ne te fait rien. » Il nous semblerait que Dieu est indifférent. Et parfois, en plus, on culpabilise de ces sentiments dont on n'arrive pas à se défaire. Il faut cependant reconnaître que c'est une vraie épreuve. Oui, nous avons des motifs pour dire « ce n'est pas une situation normale ». Et dans sa limitation des contacts, de la possibilité de se réunir pour prier, ce que nous vivons est légitimement une source de souffrance, car nous avons été créés pour former le peuple de Dieu, et cela suppose des échanges, des contacts avec Dieu et avec les hommes. Alors ne pouvons-nous pas espérer un oracle de la part du Seigneur comme il en donna un autrefois du temps d'Ézéchiel? Ne pouvons-nous pas espérer de la part du Seigneur un oracle de consolation comme il en donna autrefois au temps d'Ézéchiel? Eh bien, cet oracle nous est précisément donné en cet évangile dans la solennité du Christ roi de l'univers. Nous découvrons en ce jour la promesse du dévoilement du sens et de la fécondité de ce que nous vivons. Vous avez vu, les hommes de la parabole découvrent que leurs actes ont une portée plus profonde qu'ils ne l'imaginaient. Quand est-ce, Seigneur, qu'il nous est arrivé de te voir dans le besoin et de te venir en aide? Et le Seigneur révèle, à chaque fois que vous l'avez fait à ces petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nos actes étaient en rapport avec le Christ, et nous ne le percevions pas. Ils avaient une portée en vie éternelle, et nous ne l'avions pas saisie. Lui, le Seigneur l'a vu, lui, le Seigneur ne l'a pas oublié. La particularité du jugement dernier, quand le Christ viendra dans la gloire, n'est pas tant le tri entre ceux qui entreront dans le royaume et les autres, que le dévoilement de la portée, de la fécondité de chacun de nos actes, et la façon dont ils ont contribué à l'histoire du salut. En effet, le choix de la vie éternelle avec Dieu, cet état que nous appelons le paradis, ou le choix de la vie sans Dieu, ce que nous appelons l'enfer, advient déjà dès notre mort, lors de ce que l'on appelle le jugement particulier. Le jugement dernier, lui, rendra clair le déroulement de toute l'histoire, la portée de chaque acte dans toutes ses ramifications. Parce qu'il y a bien des fois où nous nous disons « À quoi bon ? Qui a vu ce que nous avons fait ? Y a-t-il eu seulement un fruit à mes efforts ?» Ce jour-là, lorsque le Christ paraîtra dans sa gloire, nous verrons, et le sens éclatera au grand jour. Ce sera un grand moment d'action de grâce, parce que nous découvrirons des gens qui s'approcheront pour nous dire « Ce jour où tu as porté l'épreuve, ce jour où tu as offert dans les mains du Christ ton épreuve, ta lassitude, tes souffrances, ce jour où tu as choisi de croire quand tout était sombre, eh bien tu m'as permis de recevoir un fruit de courage, de foi, de persévérance, de miséricorde. » Il y aura cette grande joie de pouvoir dire à ceux dont nous avons reçu le réconfort, de leur dire leur merci et de recevoir de ceux à qui nous avons porté réconfort par la communion des saints, sans en avoir forcément une claire conscience, de découvrir avec joie ce que notre vie a porté de fécondité. Parce que nos actes, un peu comme une pierre jetée dans l'eau, produit non pas seulement un cercle, mais de nombreux cercles qui s'éloignent et qui continuent de s'éloigner, d'avoir une portée, nous découvrirons les nombreux cercles concentriques produits par nos actes de foi, d'espérance et de charité. Nous découvrirons leur portée à travers l'histoire du salut, pas simplement dans notre temps, mais dans les temps qui suivent. Ce que nous portons d'épreuve, il faut le rappeler aussi, nous ne le portons pas seulement pour nous-mêmes. Comme baptisés, nous sommes associés au Christ qui porte et enlève le péché du monde. Nous portons donc aussi avec lui une part de ce fardeau. Cela signifie que les épreuves que nous portons, que nous traversons, ne sont pas simplement les conséquences de nos propres actes, mais sont aussi une participation à l'œuvre de salut du monde. Il est important de le savoir, car sinon, nous restons dans l'impasse des amis de Job. Pour eux, l'épreuve que chaque homme rencontre était directement proportionnelle au mal qu'il avait commis. Mais Job résistait à cette interprétation. Job dévoilait qu'il y avait une part de souffrance innocente. Il ne disait pas qu'il n'avait jamais péché, mais il affirmait avec justesse que l'épreuve qu'il subissait était sans commune mesure avec le mal dont il pouvait être responsable directement. En sachant cela, nous aurons plus de détermination pour oser porter le fardeau. Parce qu'il nous arrive de nous dire « Si ce n'était que pour moi, je lâcherais le morceau. Mais si c'est pour toi, si c'est avec toi que je le porte, je veux bien l'offrir. » Je veux bien persévérer. Je veux bien l'offrir car je t'aime et tu es précieux à mes yeux. Et je veux que tu puisses traverser cette épreuve. Et si donc je peux t'apporter un soutien, je l'accepte. Dans le dialogue des Carmélites, Bernanos avait voulu manifester cet aspect de la communion des saints avec la mort de la mère supérieure, une femme qui avait toujours été un roc, mais qui s'éteint dans l'angoisse et la peur, au point que l'on s'étonne, on dirait que ce n'était pas sa mort. Et à la fin de la pièce, lorsque la jeune sœur blanche de la force, dont toute la vie pourtant avait été traversée par l'insécurité, par la peur, la jeune blanche de la force monte à l'échafaud des révolutionnaires avec une paix, un calme, une détermination qu'on ne lui aurait jamais cru. Un échange de force entre la mère supérieure et la jeune blanche de la force, pas immédiatement, avec un délai, mais pourtant, c'est d'elle que cette force est donnée. Dans cette situation, nous faisons une expérience étonnante. C'est que Dieu nous donne toujours la grâce suffisante. On doit distinguer grâce suffisante de grâce surabondante. La grâce surabondante, c'est la grâce qui nous porte. Il y a une force évidente, ressentie, la présence de Dieu est claire, savoureuse. Eh bien, cette grâce-là, elle ne nous est pas toujours donnée sur cette terre. En revanche, la grâce suffisante, elle, est une grâce que l'on ne soupçonne pas, parce que 10 fois, on a pensé qu'on allait s'effondrer, et pourtant on a tenu. C'est la grâce qui permet de tenir le quart d'heure qui vient, quand je ne suis même pas capable d'envisager une demi-journée entière. Non, juste le quart d'heure qui vient, et je me rends compte que je l'ai vécu, que j'ai tenu. Dieu nous donne toujours la grâce suffisante. Alors c'est vrai, c'est dur. Et on peut le dire. Il est toujours très étonnant dans l'Écriture de découvrir que des grands personnages, pensons à Moïse, pensons au prophète Jérémie, d'autres encore, se sont plaints quand la route était dure. Au point parfois de dire au Seigneur, « Mais Seigneur, si ça doit continuer ainsi, reprends plutôt ma vie. » Ils n'ont pas mis fin à leur jour, mais ils ont fait monter leur peine devant Dieu, que le chemin était dur, et Dieu ne le leur a pas reproché. Souvenons-nous même du Christ à Gethsémani qui dit « S'il est possible que cette coupe passe loin de moi ». Mais par amour, il choisit de porter ce poids véritable qui le déchire dans sa chair, dans son cœur. Par amour, il choisit de porter ce poids, de porter cette croix, mais il a pris le temps de dire « S'il est possible que cette coupe passe loin de moi ». Frères et sœurs, oui, le temps est dur et compliqué, mais ce n'est pas vain. Courage ! Le Seigneur voit ce que vous endurez et comment vous vous associez au poids du salut du monde. Courage ! Parce que nous en verrons la fécondité quand le Seigneur viendra dans sa gloire. Seigneur Jésus, nous avons confiance que tu vois la portée de chacun de nos actes et que tu nous en révéleras la fécondité. Soutiens-nous par ta grâce. Nous avons confiance que tu nous donnes toujours la grâce suffisante. Donne-nous le courage de persévérer et d'entrer avec toi le moment voulu dans ta gloire. Amen.